the end. Beautiful friend. Salut à tous, on est super content de vous retrouver pour la nouvelle émission du club. Enfin la première, on a mis du temps à la mettre en place, mais ça y est, on est là. Je suis entouré d'une belle équipe avec notamment Gianni à la régie. Salut Gianni.
Salut, salut Gianni, animateur 2.0 du club 2.0.
Je suis aussi avec Quentin. Salut Quentin.
Yes, Quentin, bénévole pour la radio et surtout fervent supporter du Paris Saint-Germain.
Depuis 2011, on notera.
Aïe.
Et enfin, je suis avec Emeric. Salut Emeric.
Oui, Emeric, alias Rico, blogueur. Donc voilà, passionné de football.
Donc on l'a compris, que des fans de football. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir une grosse, grosse page foot parce qu'il y a une grosse actu foot. On va parler notamment de l'équipe de France, des résultats des équipes françaises en Coupe d'Europe qui ne sont pas flamboyantes et aussi un peu de tout ce qui s'est passé dans les championnats ce week-end avec notamment en Bundesliga, en Première Ligue et en Ligue 1.
Et une petite page sur le Ballon d'Or aussi.
Et le
soi-disant podium provisoire
qui
aurait fuité en tout cas selon RMC, donc je propose. Et puis après, pour finir, on aura une petite partie sur sport de combat parce qu'il y a une petite actu aussi, même une grosse actu d'ailleurs.
Et parce qu'au bout d'un moment, faut bien parler de vrai sport.
Hein. Voilà, c'est ça. Et puis on finira par le quiz comme d'habitude. Voilà. Donc on va commencer par la page foot. Est-ce qu'on a un jingle?
Oui, après beaucoup de péripéties, on a enfin un jingle.
Alors on écoute ça. Ok, donc
je suis pas déçu.
Ça c'était le jingle.
C'est
foot.
Ouais, voilà.
Ouais, on va retravailler
apparemment.
On va retravailler les jingles parce que là, ouais, c'était pas, ouais. C'est pas ce qu'on aime mieux.
Ça respire pas le foot.
Donc alors, on va commencer par l'actu la moins récente, c'est-à-dire la liste de Didier Deschamps qui a eu lieu jeudi dernier. Donc j'ai une question toute simple pour commencer. Est-ce que déjà vous avez vu cette liste?
Ouais.
Enfin, je pense que tout le monde l'a vu. Et qu'est-ce que vous en pensez là? Emeric, par exemple.
Ben, la liste, c'est du Deschamps. Hein. Il prend les hommes avec qui il compte. Voilà, et sans surprise. Peut-être c'est juste Martial, le grand nouveau. Le grand.
Ouais, mais
le nouveau joueur de la liste, mais bon.
C'est pas vraiment une
Martial,
surprise.
C'est plus
la
c'est
liste
c'est
m'a
plus
pas
un
surpris.
Retour, en fait.
Gianni, ouais, c'est pas une surprise tant que ça, Martial, qui était déjà quand même dans la liste.
Voilà. En fait, Martial, on va dire que c'est plus un retour mérité qu'autre chose, parce que c'est vrai qu'avec ses performances à Manchester United... Mais le problème, en fait, c'est qu'il faudrait que ça soit ça pour tous les joueurs, en fait. Il faudrait que ça soit par rapport à leur performance en club. Je comprends pas qu'il ait respecté cette logique avec Anthony Martial, mais qu'il puisse pas faire de même pour d'autres postes et d'autres joueurs.
Après, je suis pas sûr que Martial puisse jouer aussi. Hein.
Comment ça?
Contre l'Uruguay...
Ah, faut voir. Moi, je pense que Martial, il peut faire.
Pas sûr, hein.
Il peut, en tout cas, il peut rentrer contre les Pays-Bas. Et s'il fait une grosse paire, pourquoi pas l'aligner contre l'Uruguay. C'est pas impossible, je pense.
Non, personnellement, je suis d'accord avec Emeric. C'est du Deschamps. Une liste à la Deschamps. Sans surprise, je suis un peu déçu, certes. Oui, il y a Martial. Mais il y a des joueurs, ils devraient être présents. Mais on pense à Alexandre Lacazette,
ouais,
je sais pas ce qu'il doit faire pour...
Par contre là, on parle beaucoup du secteur offensif, mais moi pour le coup, ce qui m'a
défenseur
le plus choqué,
aussi,
c'est vraiment le secteur défensif, avec les présences de Lucas Digne, Adil Rami, Benjamin Pavard qui continue...
Adil Rami qui était censé avoir pris sa retraite internationale.
Je t'avoue que Lucas Digne, c'est pas celui qui m'a le plus choqué, étant donné que niveau latéral gauche, on n'est pas non plus... c'est pas le poste où on est le plus fourni. Par contre, je t'avoue que la présence de Rami m'a vraiment surpris parce que je me suis dit, en fait, un mec qui se fait soulever par Gaëtan Laborde, il peut techniquement pas être en équipe de France, tu vois. Surtout qu'on a des dialogues de Laborde, de l'anglais à sa place.
Ouais, il y a un énorme vivier niveau défenseur central. Bon, on en reparlera peut-être après
ouais,
au niveau
voilà,
des nouvelles têtes qu'on aimerait voir, mais il y a Upamecano à Leipzig. Il y a vraiment du monde, il y a un gros vivier.
Non, mais c'est pour
bah,
ça,
c'est
le chantier de la défense centrale, certes, Adil Rami, pour moi, je comprends pas, mais c'est pour jouer les remplaçants. Alors qu'à droite, Pavard, une catastrophe à Stuttgart, mais il y a Sidibé aussi qui prend l'eau
mais,
à Monaco.
Ouais.
Mais justement, là encore, le problème, c'est qu'on est très très peu fourni à ces postes-là.
Ouais, mais il y en a quelques-uns, par exemple, à Montpellier.
Oui, il y a Ruben
Aguilar.
Mais, que j'aimerais bien voir en équipe de France.
Il y a aussi Lala aussi.
Ah, mais le problème, c'est que est-ce que tu peux faire confiance à des mecs qui jouent à Strasbourg
c'est
ou à Montpellier,
est-ce que c'est notamment, j'ai vu un papier d'Eurosport dans la semaine qui a précédé la liste, c'est est-ce que le bon joueur de Ligue 1 a encore sa place en équipe de France? Et moi, honnêtement, je pense que oui.
Je
pense
que
oui,
oui
parce que tu retrouves ça dans toutes les sélections. Et au final, même si de l'extérieur ça peut paraître un peu léger, je veux dire, hier j'ai regardé River Plate Boca Junior et je peux te dire qu'il y a certains joueurs de la... Si avant tu voyais la liste de l'équipe d'Argentine et tu t'interrogeais sur la présence de certains joueurs qui jouaient au pays, quand tu vois un match comme ça et tu vois le niveau qui a rien à envier au niveau des matchs de Ligue 1,
tu te poses plus la question.
Et faut faire confiance au vivier national un peu, je pense.
Après, ça reste un super classico. Et c'est pas le même type de match, tu vois. Par exemple, on peut pas juger exactement un classico en France comme un autre match de Ligue 1, tu vois, parce qu'un classico ou un derby, il y a quand même plus de, d'enjeux qu'un Montpellier-Caen, par exemple.
Et donc... c'est sûr, après, le classico, ça peut être un indicateur, mais c'est pas non plus un faible. Je veux dire, tu regardes le classico en France, t'apprends rien, quoi. Au jour d'aujourd'hui.
Après, disons qu'il y a tellement une équipe qui domine l'autre aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Classico.
Voilà. Après, je pense qu'il n'y a pas tant que ça de joueurs Ligue 1 qui ont le potentiel pour être en équipe de France. Hein. Aujourd'hui, on a quoi ? On a Fekir, on a Thauvin, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ça. On a quelques joueurs, mais pas non plus énormément. Et la plupart de nos joueurs qui doivent être en équipe de France, ils sont à l'étranger.
Après, j'ai l'impression que Didier Deschamps, il ne fait pas confiance en Laporte. Il aime pas,
Non, c'est pas ça.
Alors,
c'est
Gaëtan Laporte.
Emeric Laporte. C'est un problème de comportement, en fait.
Ouais, je suis assez
Emeric Laporte.
Il a trop fait du chantage, en fait, avec la sélection espagnole et il se prend trop au-dessus, il paraît. Et
je suis assez
Deschamps, le connaissant.
Que, même si, que ça soit une question de chantage ou pas, voir un joueur comme Emeric Laporte, qui aujourd'hui est titulaire à Manchester City,
quand
et qui
en plus
fait de très bonnes performances,
Je suis d'accord.
C'est quand même. Tu te poses la question.
Et cette semaine, j'avais vu une. Je crois que c'était dans Eurosport aussi, comme quoi ils font des bons trucs. une interview de Willy Sagnol.
Eurosport.
Qui avait parlé de. Qui parlait d'Emeric Laporte. Et qui disait qu'à chaque fois qu'il avait. Parce qu'il était sélectionneur des espoirs avant Willy Sagnol. Mmh. Et il disait qu'à chaque fois qu'il arrivait en sélection, il avait toujours un problème, il avait toujours mal quelque part. Et il disait qu'il n'avait pas l'impression de voir. Il n'avait pas l'impression qu'il était heureux d'être là, tu vois.
C'est ça.
Et Deschamps, c'est un mec qui marche beaucoup à l'affectif. On l'a vu avec Rabiot qui s'était plaint après sa première sélection. On l'a plus jamais revu Rabiot derrière. Donc je pense que autant je suis un grand fan d'Emeric Laporte.
Après, je veux dire, il y a quand même, des degrés. Je veux dire, encore Rabiot, lui, c'est parce qu'il a vraiment refusé une présélection au mondial. C'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Pour Emeric Laporte, on s'en tient à des déclarations dans la presse.
Ouais, mais
donc,
Rabiot,
c'est pas rien, mais c'est quand même moindre. Quoi.
Rabiot, il a pas commencé à être indésirable aux yeux de Deschamps après son refus de sélection.
Ouais.
Il a commencé à être indésirable quand il s'est plaint après le match. Après la Bulgarie, quand
ouais,
il est
la
sorti
Bulgarie, voilà.
Et qu'il avait dit qu'il n'avait pas joué parce qu'il avait froid ou je sais pas
ouais,
quoi.
Ouais, il pleuvait.
Et que Deschamps l'avait très très mal vécu.
Après, je vais me répéter encore, on parle d'Emeric Laporte, mais c'est vraiment pas le chantier prioritaire. Il y a deux postes pour moi, défenseur droit et surtout aussi buteur. Olivier Giroud, qu'est-ce qui se passe ?
Gignac.
C'est drôle, c'est qu'en fait, on a beaucoup...
Quadruplé.
On a plein de... c'est ce que je disais à Gianni hier. C'est qu'on a beaucoup de buteurs français qui marquent. On
pense à Alassane Plea aussi.
On a Alassane Plea
qui a encore mis un triplé.
Ouais.
Wissam Ben Yedder qui fait gagner son équipe.
Sébastien
Haller
qui marque,
qui est très bon à Francfort. Ouais.
Comme j'ai dit, là, Gignac, il a mis un quadruplé
ouais,
aussi.
Après, c'est pas comparable.
Gignac, il reste dans une Farmers League, tu vois.
Bah, Gignac, c'est surtout que je pense qu'il a fait son temps en équipe de France. Il a déjà.
Ouais.
Quel âge il a, Gignac ?
Il doit avoir
32,
je pense.
Ouais, voilà. Donc je pense que voilà, c'est un peu aussi qu'il a fait son temps en équipe de France.
Non,
mais
Ben Yedder aussi, qui n'arrête pas de marquer
à Séville. T'as des très bons joueurs qui jouent dans des très bons championnats. Et au final, même quand tu vois leur performance, tu sais d'avance qu'ils ne seront pas sélectionnés. Et j'imagine même pas d'être à la place de ces joueurs parce qu'eux aussi doivent le savoir, en fait. Ils doivent savoir que peu importe leur performance en club, il y a une hiérarchie en équipe de France qui est prédéfinie.
Et là, on parle de Ben Yedder, Pléa, enfin toutes les pépites qui pourraient postuler. Mais en fait, pourquoi aller chercher bien loin quand t'as Alexandre Lacazette qui est au summum de sa forme à Arsenal.
Et c'est
Arsenal
qu'on se demande,
qui marche très bien.
C'est vrai quoi. Après, c'est vrai. Arsenal,
et qui joue plus
que
Giroud.
Marche moins bien.
Qui joue plus que Giroud, c'est ça.
Depuis 3 matchs, parce qu'ils sont, sur 3 matchs nuls. Mais quand même, Lacazette, c'est vraiment l'atout offensif. Enfin, en tout cas, un des atouts numéro 1 offensivement à Arsenal. Et. On se demande, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être sélectionné, quoi.
Non, mais c'est même pire que l'année dernière, en fait. Parce que Giroud, l'année dernière, il jouait pas mal à Chelsea. Mais là, Morata, il est titulaire à sa place cette saison.
Et pour le coup, pour être titulaire, enfin, pour être remplaçant de Morata.
Ah ouais, parce que Morata, c'est quelque chose.
Mais peut-être
Morata,
que Deschamps, il va utiliser Martial en 9 et non sous les côtés, peut-être.
Non, moi, non, je préfère sur les côtés.
Je pense pas, ouais, ça m'étonnerait.
Et
ça
puis
m'étonnerait.
Martial, il le sait, c'est pour être super sub.
Puis même,
je pense que Martial, il est préparé pour ne pas jouer.
On n'en a pas parlé encore, mais même niveau gardien, moi, je pense qu'il y a un truc à faire en équipe de France.
Mandanda, ouais, c'est bon.
Parce que Lloris, ok. Areola, ok, mais
Lecomte, j'aime bien. Moi, Benjamin
Lecomte. Il faut installer soit Lecomte, soit Lafont, qui fait des très très bons matchs avec la Fiorentina.
Ouais, Alban Lafont. Ouais.
Et je pense que ça doit être un. Doit être installé. Bah, après, il est encore jeune, il a que 20 ans. Mais je pense que dans le futur. Pour, ça peut être...
Après, dans tous les cas, je veux dire, la hiérarchie des gardiens, c'est pas le truc le plus important à mes yeux. Parce que je veux dire, de toute façon, Lloris, il aura la place en équipe de France jusqu'à la retraite, ou en tout cas jusqu'à ce qu'il ait le niveau. Mais par contre. Voilà, jusque-là, la place de deuxième gardien à terme, elle semble réservée à Alphonse Areola, à moins qu'il y ait une éclosion inattendue.
Benjamin Lecomte, je vois pas autre chose.
Mais de toute façon, j'ai envie de dire, le troisième gardien, il est là pour porter les seaux, quoi, pour porter les serviettes. Donc au final, que ça soit Lafont, Mandanda ou un autre, je vois pas. Mais,
c'est pour
le
ça
grand
que...
gâchis en équipe de France, pour moi, c'est Ruffier.
Non,
je suis pas
c'est
d'accord.
Lui qui a refusé.
Ruffier a eu une grosse période où il était vraiment, vraiment chaud. Et là, ça fait depuis 2-3 saisons qu'il est vraiment plus
au top. Il est clairement rentré dans le rang.
Après, je suis d'accord sur le fait que Costil avait vraiment été en dessous de Ruffier pour moi. En tout cas, à l'époque, il l'est toujours. Mais Ruffier, pour moi, n'avait pas tant que ça sa place en équipe de France non plus. Enfin, en tout cas, pas en tant que titulaire, ça c'est sûr.
Non,
après,
pas titulaire.
Pour parler d'autres joueurs aussi, bon, on va pas parler de Mamadou Sakho non plus. Je sais pas pourquoi il est là. Alors qu'il est.
Mamadou.
Il est dans le dur avec Crystal Palace en Première Ligue, mais aussi surtout Ousmane Dembélé. Moi, ça fait quelques temps qu'il commence vraiment à me décevoir par sa nonchalance, par son jeu stéréotypé.
Il est pas très chaland.
Son manque d'implication.
Apparemment, son extra sportif, il est mauvais.
Bah, au Barça, il a de gros problèmes. Hein. Il y a Malcolm qui lui
est
passé devant.
Rien que cette semaine, en fait, j'ai vu qu'apparemment, il y a encore eu une polémique avec Dembélé. Apparemment, il serait pas présenté à l'entraînement sans rien dire à personne.
C'est pour ça qu'il a pas été retenu par
le médecin du Barça. A été obligé d'aller le chercher jusqu'à chez lui, de constater qu'il était effectivement malade. Donc ça passe vraiment pas. Mais le truc c'est que Dembélé, il y a des problèmes extra sportifs certes,
mais il y a pas que.
Mais
son hygiène de vie peut-être.
À mon sens, Dembélé, c'est un joueur qui depuis le début de la saison performe dans une des plus grandes équipes d'Europe.
En fait, le problème de Dembélé,
il a mis
c'est
quoi,
un petit peu
5 buts.
C'est un petit peu le même problème que Paul Pogba, tu vois. Même quand Pogba il a eu des moments moins bien, tu sais que c'est un joueur qui est ultra talentueux et qui peut te faire changer le cours d'un match. Donc le problème c'est que tu peux pas le retirer du groupe France pour moi. Parce que tu sais bien que Dembélé il fera peut-être 6 matchs dégueulasses, mais qu'il y a un match où il va te sauver vraiment la mise, tu vois. Donc pour moi, ok, il doit pas être titulaire, ça pour l'instant c'est sûr. Il faut pas oublier qu'il a quand même que 21 ans, ou 22, enfin 20 ou 21, je sais plus quel âge il a, mais il est très très jeune encore. Qu'il était titulaire dans un des plus grands clubs d'Europe, comme a dit Gianni. Et je pense qu'on lui demande beaucoup trop en fait pour l'instant.
Mais Deschamps de toute façon.
Non mais c'est pas ça, c'est que oui.
Il va conserver son groupe de champions du monde, Deschamps.
Ouais,
non mais Dembélé, je veux
Emmerich,
dire.
Emmerich, ça c'est bien pour la première sélection, mais tu peux pas faire ça à toutes les sélections. C'est la troisième sélection.
Quentin, on est d'accord, mais là moi je pars du point de vue. Je pars du point de vue de Didier Deschamps.
Oui, non mais c'est ça le problème.
Il
et
va
là,
conserver
il est presque intouchable parce qu'il a gagné la Coupe du Monde.
Après, pour en revenir à la défense, tu vois.
Deschamps, il est comme ça.
Kurtzuma et Sakho, j'ai pas compris. Encore Kurtzuma, à la limite, tu vois, il est jeune.
Non.
Kurtzuma, il est jeune, il peut avoir une évolution.
Honnêtement, Sakho, c'est le même problème qu'avec beaucoup, en fait. C'est il a le totem d'immunité par rapport. Depuis sa performance contre l'Ukraine, je l'ai plus jamais vu refaire une performance de haut de volée en équipe de France.
Mais il jouit encore
d'un statut. En fait, dans le groupe de Deschamps, il y a des mascottes. En fait, ils convoquent des mascottes, des joueurs qu'on sait qu'ils apporteront pas énormément sur le terrain.
Il y a un joueur aussi qu'on n'en parle plus déjà, c'est Kurzawa. Kurzawa, c'est un problème extra sportif aussi.
Il est blessé déjà.
Mais c'est aussi un problème extra sportif aussi. Berchiche, il dit ça dans son interview.
Oui, il dit
là.
Que par exemple, j'ai vu l'interview de Berchiche sur le Canal Football Club qui disait que quand Berchiche arrive au PSG, Kurzawa il se sentait vraiment intouchable. Et du coup, quand il y a eu la concurrence, il a vraiment perdu confiance en lui. Et voilà, je pense que des joueurs comme ça, bah, ça n'a pas le niveau pour être international.
Non, mais surtout qu'à gauche, les gars, on a vraiment du lourd. On a Benjamin Mendy, Hernandez, et il y a même Ferland Mendy derrière.
Mendy qui va pas tarder à arriver.
Alors qu'à droite, on a personne. À droite, il n'y a personne.
Il y a Sébastien Corchia.
Il y joue au Sport Benfica, non?
Benfica. Il a été préféré au Benfica. Ouais, mais il a été prêté au Benfica, pardon, mais il est en difficulté là. Pourtant, Corchia, je l'aime bien, c'est un bon joueur, mais bon.
Il est arrivé au Benfica, il s'est blessé. Il s'est blessé directement. Après, il partait pour être titulaire, d'après ce que j'ai compris, mais bon, comme il s'est blessé, c'est plus compliqué que prévu.
Et Debuchy, c'est retraite internationale.
Debuchy, c'est vieux.
Stéphane Debuchy, Mathieu Debuchy a annoncé sa retraite internationale ce week-end.
Ouais.
Et ensuite, il a marqué avec Saint-Etienne.
Voilà.
Un pied de nez à Didier Deschamps.
Bon, du coup, je pense qu'on va conclure sur cette page équipe de France, juste avec une question. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est mieux de faire comme Deschamps fait, c'est-à-dire maintenir la dynamique de groupe, ou est-ce qu'il faut peut-être pas tout changer dans la liste, mais en tout cas préparer les échéances qui arrivent, à savoir l'Euro en 2020, avec de nouvelles têtes?
Il faut pas tout changer, parce que bon, t'as une équipe championne du monde déjà mise en place, mais il faut la rafraîchir, mettre un petit peu de nouveauté. Bon, on parle de Giroud.
Il faut la remodeler un peu.
Je suis désolé, bon, il y a mieux que lui, la Cazette, comme t'as dit, Pléa, je sais pas.
Allaire, tout ça.
Allaire, Ben Yedder.
En défense aussi, on peut la rafraîchir.
Juste à droite, hein. Juste à droite.
Oh ouais, même en défense centrale.
Même en défense centrale.
Axe droit, Axe droit et à droite.
Ah, vous parlez dans les remplaçants, en fait.
Petit Varane est derrière, tu mets qui?
Bah, il y a Kimpembe, mais qui fait des très mauvaises prestations.
Ouais, voilà.
T'as la porte.
T'as Diallo, t'as l'anglais.
Diallo qui est très bon.
T'as Upamecano à Leipzig.
T'as Nekate à Leipzig. T'as Nordin.
T'as l'anglais. Ouais, Sako, c'est à l'anglais à Barça.
Clément Langlais au Barça qui fait très bien.
Oui, Clément Langlais. D'ailleurs, Clément Langlais qui était fortement pressenti pour être dans la liste.
Je comprends pas. Quand je vois Adil Rami, ça me.
Personne n'a compris. Donc, selon vous, en gros, il faut peut-être plus miser sur le côté sportif que sur la cohésion de groupe alors.
Non,
étant sélectionneur, c'est sûr que la cohésion de groupe, c'est hyper important. Et comme j'en parlais récemment avec Antoine, dans toutes les sélections, tu vois des joueurs. Tu vois des joueurs qui méritent pas à première vue d'être en équipe nationale de par leur niveau en club, mais en équipe de France, ils ont toujours posé leur performance. Je pense notamment à Luka Podolski. Même quand il était en galère à Arsenal, même quand il jouait à Galatasaray, que son niveau en club c'était loin d'être folichon, il a toujours été convoqué en équipe d'Allemagne, il faisait tout le temps ses
performances. On a l'exemple de Jonas Hector aussi aujourd'hui.
Voilà, Jonas Hector qui joue en D2 et qui continue à être indiscutable à chaque liste de Joachim Löw.
En Allemagne, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a Klose, même sur la fin, qui était plus énorme à la Lazio.
Klose, ça reste quand même Klose, tu vois.
Oui, mais regarde, sportivement, sur la fin, c'était pas ouf.
Ouais, mais tu vois, c'est un peu comme
ça, c'est plus l'expérience, non?
C'est peut-être pas le meilleur exemple.
Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est l'expérience qui parle plus que...
Voilà, non,
que
mais après ça, t'en as pas qu'en Allemagne. Tu peux le trouver dans d'autres sélections. Mais en fait, c'est pour service rendu. Mais déjà, faut savoir quand s'arrêter. Faut savoir où est-ce que cette logique, elle a sa limite. Et faut savoir allier un peu les deux, comme disait Quentin, en fait, la cohésion de groupe avec le mérite, tout simplement.
C'est-à-dire des leaders avec des petits nouveaux.
Après, ne me dis pas que Lacazette, c'est pas un joueur expérimenté.
Voilà, c'est ça.
Et ne me dis pas non plus qu'il s'entend pas avec ses partenaires, coéquipiers d'attaque.
Ouais, c'est pas ça, parce qu'on sait qu'il a de très bons rapports avec notamment Antoine Griezmann ou même Paul Pogba. Il a vraiment de bons amis en équipe de France et il n'y a pas un problème de cohésion.
Parce que Deschamps, selon lui, il a construit son groupe pendant la Coupe du Monde, avant et pendant la Coupe du Monde. Hein, du coup, à gagner une Coupe du Monde ensemble, ça soude beaucoup. Et du coup, je pense qu'il est dans son esprit. Il veut maintenir ce groupe-là le plus longtemps possible.
Bah après, c'est toujours la même question qui se pose. Est-ce qu'on change une équipe qui gagne?
Voilà, il a des résultats, Deschamps, avec cette équipe-là.
Là, c'est moins bien depuis quelques matchs.
Ouais. C'est moins bien, mais je veux dire, la France est en tête de son groupe en Ligue des Nations. Et elle est championne du monde en titre.
Il manque un point pour aller en finale.
Ouais, voilà, exact.
Bon, alors, c'est sur ces mots qu'on va terminer la page équipe de France. Donc avec une déception générale, d'après ce que j'ai compris. Et maintenant, on va évoquer le parcours des équipes françaises en Coupe d'Europe cette semaine, qui a été encore une fois désastreux, puisqu'on n'a eu aucune victoire. Je crois qu'on en est à 13 défaites, il me semble. Plus combien de matchs nuls, je crois que c'était 8 matchs nuls et une seule victoire. Donc, pas une seule victoire, mais...
C'est 3 victoires.
3 victoires, voilà. Et donc bref, c'est très très moyen. Donc, est-ce que vous avez regardé tous les matchs des équipes françaises ou pas?
Oui, Oui, et après le match Lyon-Bordeaux, je pensais avoir vu la chose la plus triste de ma semaine. Et bien, il n'en fut rien. La Ligue des Champions est arrivée. Monaco s'est fait littéralement humilier par Bruges.
Monaco, j'étais
triste, honnêtement. Non, c'était une tristesse. En regardant le match, c'est tout à fait logique.
Ah, oui,
tu vois l'effectif aussi. Il y a des joueurs que je connais même pas. Je veux dire, c'est bien d'incorporer des jeunes joueurs, de leur faire acquérir de l'expérience et tout, mais tu dois pas déconner.
Après, hein, comme je disais, Monaco, ils font un peu avec ce qu'ils ont en ce moment, hein, parce que là, il y a encore.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés.
Il y a encore un gars qui s'est blessé hier, je sais plus qui. Et je sais qu'il y en a encore qui s'est blessé. Donc là, ça rajoute encore à.
C'est Mboula.
Ouais, Jordi Mboula, c'est ça qui s'est blessé hier.
Et maintenant, il y a même les remplaçants qui se blessent.
Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, là, il va falloir qu'ils se bougent vraiment à recruter cet hiver.
C'est
une catastrophe. Que...
Ouais, mais qui va vouloir venir à Monaco?
Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait trois clubs sur.
Il n'y a pas d'impôts là-bas.
Bah, c'est pas ouais, mais c'est pas le public qui va les ramener.
Il y avait Joris Gnagnon qui intéressait Monaco, mais qui aussi intéresse beaucoup l'OL.
Il est dans le dur, hein, à Séville.
Ouais, alors moi, pour le coup, je le prends vraiment à l'Olympique Lyonnais parce que.
Qu'avec Marcelo et Denayer aussi qui a été très solide en début de saison, mais il a fait quelques performances un peu plus moyennes, on va dire.
C'est Marcelo.
Je suis pas pour taper sur Denayer parce que Denayer il a pas l'habitude d'enchaîner les grands matchs comme ça, donc je suis peut-être plus enclin à lui laisser du temps. Par contre, Marcelo, faut avouer que autant la saison dernière c'était très très solide, autant cette saison c'est vraiment catastrophique à chaque match, quoi. Il s'est pas relancé, il est lent. Franchement, c'est catastrophique. Il y a que niveau physique qui voulait à peu près performant, mais alors le reste.
Et
vraiment...
pour revenir à Monaco, juste le match de Ligue des Champions.
Mais Monaco, dans tous les cas, c'est nettement pas surprenant parce que rien qu'en voyant le match aller, c'est franchement, ils s'en tirent très très bien avec ce point de vue nul. Hein.
Non, mais c'est pas surprenant, mais je veux dire, c'est horrible parce que tu regardes le match, c'est pas un manque d'envie, c'est un manque de qualité. C'est qu'ils peuvent pas, il y a une spirale négative et on dirait qu'ils peuvent perdre contre n'importe quelle équipe.
C'est
et là, c'est clairement la course au maintien.
Mais
je
te dirais aussi que moi, je suis pas d'accord avec la stratégie mise en place par Thierry Henry. Quand tu as des jeunes comme ça, n'attaque pas, défends. Ne prends pas de but.
Mais à un moment, il faut bien gagner les matchs.
Ferme tout. Et une base défensive, déjà.
Ouais, mais comment tu gagnes les matchs après?
Ouais, mais. Le problème, c'est que tu prends 8 buts en 2 matchs.
C'est sûr. Ouais.
Après Antoine, personnellement, je maintiens.
Défends avant de marquer dans ces cas-là.
Je maintiens ce que j'avais dit, la dernière fois pendant le pilote, c'est que je pense que Monaco, au jour d'aujourd'hui, malgré toutes leurs difficultés, ça vaut mieux que le 19e de Ligue 1.
Pas dans la spirale, non, je suis pas d'accord.
Individuellement, ça vaut mieux.
Sur papier,
oui, quand les 17 autres
c'est vrai que. Non, mais je te dis pas que c'est la même que les autres années. Il y a de grosses, grosses carences, notamment en défense. André Aragui, c'est plus possible.
Oh là là.
C'est plus possible, mais.
Jemerson, Aragui.
Mais je veux dire.
Glick, même Glick.
Non, mais je sais pas, moi. Mais Glick sur le papier, je sais pas, c'est censé être un défenseur.
Mais je suis d'accord, mais.
Même Golovin, c'était la sensation de la Coupe du Monde, limite. Chelsea était à deux doigts de le signer, au final il finit à Monaco.
Gianni, il y a déjà eu des effectifs comme ça dans l'histoire qui ont connu ce sort. Je pense notamment à Villarreal. Il y avait une saison où ils sortaient d'un très bon parcours en Ligue Europa. Saison suivante, ils avaient un super effectif encore, ils sont descendus.
Ouais, mais après, voilà, ça tu l'expliques pas que par le talent dans l'effectif.
Non,
ben ouais.
C'est la spirale.
Quand la tête ne va pas bien, le corps ne suit pas.
Le Mercato Monégasque qui n'a pas non plus été oufissime.
Non, il n'a
pas été
oufissime.
Par rapport à Angers, par rapport à Guingamp.
Ils sont allés chercher Golovin, qui certes était bon à la Coupe du Monde, mais qui n'a jamais vraiment prouvé au très très haut niveau.
Ouais.
Ils sont allés chercher Nasser Chadli, qui pour moi est un joueur surcoté au possible.
Non. Après, Nasser Chadli, c'est un joueur moyen.
L'année dernière, il était correct quand même.
Un joueur qui a son expérience en Première Ligue, qui a joué beaucoup, beaucoup d'années là-bas et qui a quand même un certain crédit.
Antoine, même, je suis d'accord, peut-être qu'il n'a pas été transcendant le Mercato, mais il n'a pas été transcendant pour chercher les places européennes, mais pas par rapport à Angers, même Montpellier. Montpellier, ils ont recruté Gaëtan Laborde. Quand ils l'ont recruté, tu t'es dit c'est le coup.
Mais sauf que
il a peut-être pas un énorme talent, mais il a la niaque, lui.
Je suis d'accord. Mais sur le papier, tu peux pas dire
Montpellier,
que.
Montpellier, ils ont fait quoi?
Après, c'est surtout qu'entre Montpellier et Monaco, t'as une équipe qui tourne limite en sur-régime et qui est en pleine confiance. Et t'as une équipe, ils arrivent, ils ont la tête dans les baskets, quoi.
C'est la spirale.
Ils ont la tête dans les crampons.
Le problème de Monaco, ce sera toujours le même. C'est que chaque année, ils refont une équipe. Montpellier, ok, ils ont recruté Laborde, Delors, Mollet, etc. Mais ils ont la même base d'équipe. Ils ont toujours Lecomte, Aguilar, voilà. Ils ont perdu quelques joueurs, mais rien de non plus transcendant, quoi.
Pour revenir à Monaco, moi j'ai envie de poser une question. Et Thierry Henry, en fait, c'est pas sa faute, mais il va lui arriver quoi, c'est...
Bah là, justement, on sait pas parce que
il va quand même pas se faire licencier direct avec Monaco.
Ben là, pour l'instant, après, il arrive pas cas, à donner un choc psychologique déjà.
Après Thierry Henry, je sais pas exactement ce que pensent les dirigeants, mais moi de mon point de vue, je me dis que ça soit Thierry Henry ou une autre personne, à moins qu'il déniche vraiment la perle rare qui réussisse à donner un gros électrochoc, mais dans tous les cas, ils ont pas gagné depuis août. Ça date de bien avant Thierry Henry.
Non mais Gianni, pour moi de toute façon, la seule personne qui peut sauver Monaco, c'est Jardim en fait. Et Jardim, il est plus là.
Je pense que Thierry Henry, il a vraiment sous-estimé le travail qu'il attendait avec Monaco. Je pense qu'il est arrivé, il a dû se dire voilà, je suis Thierry Henry, j'ai tout réglé en claquant des doigts. Mais de base,
moi, j'aurais jamais pris Thierry Henry, moi, de base. Moi j'aurais pris Laurent Blanc. Parce qu'avec Bordeaux, quand il arrive de Bordeaux, c'est à peu près comme ça. Hein. C'est beaucoup de jeunes et puis il arrive à faire progresser.
Oh, c'est pas la même situation.
Après, il y a moins de blessés aussi. Mais
après, on se met du point de vue des dirigeants.
Tu reprends Moncuff qui joue pas au Milan AC.
On se met au point de vue des dirigeants monégasques, mais aussi on peut se mettre au point de vue de Thierry Henry. Pourquoi il est allé à Monaco ? Pourquoi il est allé
à
Monaco ? C'est vraiment le choix du cœur. Donc Gianni. Déjà, rien que ça, c'est honorable.
S'il réussissait avec Monaco, là, ça serait la star. Le héros, l'enfant qui revient dans son club et qui rehausse le club, qui le sauve.
Et puis de toute façon, même s'il rate, les supporters monégasques lui en voudront jamais.
Oui, voilà, c'est ça.
Ah, tu dis ça, mais je sais qu'il y a des supporters, il y a une semaine, je crois, qui ont commencé à l'insulter et tout.
Les joueurs et Thierry Henry aussi. C'est comme si nous c'était Johnny Hill l'entraîneur, tu vois. Je trouve que c'est pas pareil. Tu peux forcément moins lui en vouloir, t'es plus subjectif, je trouve. Voilà, après.
Mais comment vous expliquez cette accumulation de blessures, de joueurs blessés ?
C'est le manque de confiance.
C'est pas de chance aussi.
Je pense qu'il y a un gros incroyable manque de confiance.
Il y a Golovin qui est déjà arrivé blessé, certes là ça va.
Il est arrivé blessé du mondial.
Il y a qui est blessé en fait ? Il y a Jovetic, il y a Falcao qui est revenu blessé.
Ronny Lopez aussi, blessé.
Il y a Pellegrini aussi.
Pellegrini qui était très intéressant
et qui s'est blessé. Bah, je crois qu'il en a pour la saison là, non ?
C'est sa deuxième blessure déjà, Pellegrini.
Falcao il revient là.
C'est pas de chance.
Surtout que Monaco, il n'y a pas que le sportif là. Il y a leur dirigeant qui a été épinglé pour je sais plus quoi là. Ribolovlev
qui a été inculpé après les révélations de Football Leaks, qui a été inculpé. Donc, Football Leaks,
ils ont fait mal.
Donc c'est un sac cumul.
Un Quentin.
Tiens, c'est une très belle transition pour parler du PSG, ça. Le PSG qui a fait un partout sur la pelouse du San Paolo de Naples. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paris ?
On va laisser le Parisien chevronné.
Le Parisien, alors dis-nous tout.
Le Parisien chevronné, donner son avis.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors déjà, je voudrais dire que partout, j'entends dire que le Paris Saint-Germain a fait une super prestation, notamment en première période et tout.
Tu dois traîner sur des forums parisiens, je crois.
Non, je te jure, j'ai vraiment entendu ça, même à la télé et tout. Moi, je suis désolé, mais je regarde le Paris Saint-Germain. Même en première période, c'est pas fou. Neymar, il a fait une très bonne première période, d'accord. Mais individuellement, collectivement, c'est pauvre. Enfin, quand tu vois que c'est Bernat qui amène le jeu, le but. Et en deuxième période, cette équipe, elle peut pas aller très loin. Je vois pas comment elle va sortir des poules. Naples, en plus, a pas été super, à part un quart d'heure en seconde période. À ça, on rajoute, je suis désolé Antoine, l'arbitre. Il y a hors-jeu sur le penalty. Et il y a penalty sur Bernat.
Pour le coup, j'ai vraiment revu les images. Et c'est vrai que pour le coup, c'est sifflable sur Bernat. Oh,
c'est pas sifflable. C'est obligé siffler, c'est tout. Je suis désolé.
Moi, je suis d'accord, il y a penalty.
Il y a un petit problème de son là, non ?
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
T'entends plus personne, moi.
T'entends plus personne ?
Non.
Ouais, je vais régler ça, t'inquiète.
Non, mais c'est vrai que le penalty sur Bernat, il y est. Après, on peut pas tout mettre sur le dos de l'arbitre non plus, tu vois.
Non, j'ai pas dit ça.
Paris a vraiment pas été fou.
En tant qu'équipe, c'est pas fou, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est une régression énorme, en fait. Même l'année dernière, c'était mieux. L'année dernière, tu mettais des 3-0 au Bayern. Alors certes, après, tu perds des 3-1 au retour. Mais je veux dire, ça, l'équipe fonctionnait bien. Et même avant, même pour Laurent Blanc, même pour Unai Emery, à certaines périodes. Là, vraiment, j'ai l'impression...
Mais j'ai trouvé quand même que Paris a mieux joué face à... Enfin, en Italie qu'au Parc des Princes, quand même.
Ah bah, tu t'es obligé. Ah oui, ils ont tellement fait une prestation horrible au Parc des Princes que tu peux que faire mieux.
De toute façon, ils étaient obligés parce que s'ils perdaient, c'était terminé. Après, il y a eu le faux pas de Liverpool à Belgrade, mais...
C'est ça qui sauve Paris. Hein.
Mais là, du coup, mais qui va sortir de cette poule? Enfin, c'est une poule de malade.
Pour le coup, elle est vraiment...
Ben, si Paris gagne Liverpool chez eux, ils gagnent
mais là, ça va être
en Serbie.
Hein. Ça va être très, très, très compliqué. Même en Serbie, on l'a vu. Hein. Ouais. Depuis, c'est quoi la stat? Depuis 30 matchs à domicile, l'Étoile Rouge n'a pas perdu, je crois.
Ouais. Et d'ailleurs, cette année, en Ligue des Champions, ils ont tenu le match nul contre Naples et justement, ils ont battu Liverpool.
Après, voilà,
depuis 30 et quelques matchs.
On sait à quel point c'est dur de les jouer en Serbie. D'ailleurs, c'est pour ça que Jordan Shaqiri n'a pas pu aller jouer avec Liverpool.
C'est ça.
Puisqu'il est d'origine kosovare et que là-bas, c'est pas la grosse amitié entre les Kosovars et les Serbes.
Bon, après, c'est pas Shaqiri. L'absence.
Ah, Shaqiri.
Shaqiri, il fait très bonnes performances avec Liverpool.
Je suis d'accord, mais c'est pas parce qu'il n'y avait pas Shaqiri.
Il a encore marqué ce week-end.
Il a marqué ce week-end. Ouais, non, mais
quant à Sadio Mane et Firmino, ça là.
Ouais, d'accord, mais il aura pu apporter en plus. Quoi.
Après, le truc, c'est que Shaqiri, il est polyvalent. Je veux dire, les trois de devant, ils sont certains touchables, mais par exemple, ce week-end contre Fulham, Shaqiri, il a démarré titulaire, il a démarré avec les trois du milieu.
Voilà,
il est polyvalent.
On va pas rester trop longtemps dessus, mais à votre avis, qu'est-ce qui a manqué à Paris pour aller chercher de la victoire, du coup?
Toujours la même chose.
Déjà, de l'envie, de la volonté.
Non, déjà juste un poste, un milieu de terrain. Je suis désolé.
Un numéro 6.
Après, c'est le problème de Blaise Matuidi n'a pas été remplacé dans cet effectif parisien. Tout simplement, au haut niveau, la paire Rabiot-Verratti, ça ne peut pas aller.
Mais Draxler, il a été bon.
Ouais, mais
Napoli.
Ils sont K2, je suis désolé.
Ouais,
il
mais
manque
si
un...
t'as que Draxler qui est bon sur une équipe de 11. Et Gianni, ça fait peu, quoi.
Antoine, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, pour moi, les joueurs de devant, en fait. Certes, les individualités sont très bonnes, mais ils jouent vraiment pour eux. Et il n'y a pas forcément d'alchimie. J'entends aussi Neymar, Mbappé, ça marche super bien. Certes, il y a de bons...
ça marche bien en Ligue 1.
Ça marche bien, mais la plupart du temps, c'est... On lance la balle devant pour Mbappé. Neymar, tu prends le ballon super bas sur le terrain, tu harangues les troupes. C'est... Il n'y a pas de lien entre la défense et l'attaque. On revient toujours au problème
du milieu
de terrain.
Milieu, voilà, exactement.
Et même, c'est pas niveau envie. Hein. Quoique.
Bah, je pense qu'il y a un peu de ce problème-là aussi.
Hein. Aussi ouais.
C'est pas que ça, mais ça joue pas mal.
Quand tu vois Neymar en deuxième période, il est horripilant. Il est...
Ouais.
Pourtant, il avait fait une très très bonne première période.
Ouais, ouais,
en deuxième période, même niveau comportement, il est horripilant.
En deuxième mi-temps, d'ailleurs, heureusement que Buffon est là, parce que...
Buffon, sur les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est vrai.
Incroyable. Incroyable.
Bon, on va évoquer un petit peu Lyon avant d'enchaîner sur les championnats.
Peut-être parler un peu de l'Europa League parce que c'est vraiment pas.
Ouais,
mieux.
Mais là on n'a clairement pas le temps, donc
c'est
on va juste l'évoquer.
Juste une petite stat. Donc la liste des pays qui ont pris plus de points que la France en Ligue Europa pour l'instant.
La Russie, je crois.
On a l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, l'Italie, la Belgique, la Croatie, l'Écosse, la Turquie, l'Ukraine, la Grèce. La République tchèque, la Suisse, le Kazakhstan, le Portugal et la Hongrie, donc à peu près toute la planète Terre, en
non,
fait.
Le
Kazakhstan,
gros.
Ouais, le Kazakhstan est devant la France.
Même la Croatie, les gars, enfin, à part Dynamo Zagreb...
Bah après, il y a d'autres...
Non, mais
en Europa League,
Hongrie...
c'est une question de mentalité aussi. Hein. Les gars, ils sont pas sérieux.
Oh, c'est pas une excuse.
Quand tu vois Marseille qui va passer de finale l'année passée, être
élimination
en poule.
En poule.
Marseille, il n'y a pas d'effectif. Il n'y a pas de numéro 9, il n'y a pas de très bon décès.
Mais bon, l'année passée, ils ont fini en finale avec le même effectif, sensiblement.
Ah, mais ça montre que voilà, c'était un coup de chance, quoi. Clairement.
Non, mais après, pour la Ligue Europa, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, juste déception, c'est tout. Mais pour revenir à Lyon, en fait...
Ok, il n'a pas envie de parler de la Ligue Europa, en fait.
Non, on va pas parler de la Ligue Europa.
Eh ben, tu devrais t'y intéresser un peu, parce que je pense que c'est là où Paris risque de finir.
Tout ce qu'il y a à dire, c'est que les équipes françaises n'ont pas été au niveau, et puis voilà.
Non, mais Antoine, t'as vu le match de Lyon?
Bah ouais,
comment tu peux pas tenir le score et en mettre plus
avec un milieu de terrain
en supériorité
à
2-0
avec un milieu de terrain à 5
ils avaient la main mise sur le jeu
et quand on avait parlé pendant le pilote et je suis de plus en plus d'accord avec lui, je pense qu'il y a déjà un gros problème. Lucas Tousa, il est vraiment inexistant depuis le début de la saison,
mais Gustavo à sa place, tu verras,
il tient pas son poste, il est pas là, t'as l'impression de jouer sans numéro,
mais Genesio le kiffe.
Non, mais surtout,
c'est le problème de Lyon,
Antoine, et on le voit en Ligue 1 aussi, c'est que Ouais, c'est des individualités aussi, mais en fond de jeu, mais c'est d'une tristesse, les gars. C'est...
FC Expo individuel.
C'est d'une
encore,
tristesse.
Encore samedi contre
Memphis.
De paille,
alors
voilà.
Certes, Memphis, oui. Il a fait un super match.
Les parties. On va parler en même temps de ce que c'est passé
de la
cette
Ligue,
semaine.
Ouais. Ouais. Il a fait un super match contre Guingamp.
Et rappelez-vous de la condition, celui qui critique Memphis,
il sort. Hein.
Alors
c'est
justement,
la
justement, je vais te mesurer. Je vais te mesurer.
Elle a peur de sortir.
Ce week-end, il a fait un match mais énorme. Si c'est Mbappé qui fait ça, ça fait le tour du monde.
Impliqué sur les 4 buts.
Il a été énormissime, contrairement à la prestation lyonnaise qui a encore été voilà, plus
moyenne,
que moyenne.
Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord. Ils ont été très très moyens en
première mi-temps. Ouais.
La deuxième, ça allait un peu mieux.
Ouais, mais un match, c'est 90 minutes en fait.
Oui, peux... mais après, ça a toujours été le problème de l'OL. Et
mais voilà, mais là, je suis d'accord ce week-end. Mais...
En Ligue
on
des Champions.
On va pas revenir non plus à la Ligue des Champions,
certes,
mais même
un
à
match,
Bordeaux,
c'est 90 minutes, mais t'as combien d'équipes en Ligue 1 qui peuvent évoluer 90 minutes à très haut niveau? Même le PSG le fait pas.
Mais après, je suis. Ok, il y a pas beaucoup d'équipes, mais nous on a clairement l'effectif pour pousser 90 minutes.
Clairement.
On a des Memphis Depay, on a Moussa Dembélé, qui
même
est un
sur
très bon joueur.
Même sur le banc,
on a plein de joueurs.
Certes, Bertrand Traoré, on le taille et tout. C'est vrai qu'il fait vraiment des prestations bizarres, mais
très irrégulier, par contre,
mais niveau technique. Il y a quand même plus dégueulasse. Enfin...
Non, niveau technique, moi je pense que Traoré au niveau technique c'est un très bon joueur. Après, dans ce cas, tu le retrouves beaucoup à Lyon. C'est pareil pour Memphis, c'est pareil pour, on va dire, Aouar, même si Aouar je l'aime beaucoup.
Cinquième but pour Aouar, troisième but en trois matchs.
Hein. Ah ouais.
C'est vraiment. Bah, d'ailleurs, c'est le meilleur buteur de Lyon, si je dis pas
ça. C'est le meilleur buteur de Lyon avec 5 buts. Donc c'est pour dire la tristesse de l'effectif de
Lyon. Non, mais c'est ça,
moi je suis très déçu de Moussa Dembélé.
C'est pas le pire.
Je suis pas d'accord parce que Moussa Dembélé fait quand même des plutôt bons matchs. Même contre Hoffenheim, il a fait. Je sais plus s'il était titulaire ou pas. Je crois qu'il
était
titulaire. Il est rentré en cours de match, il me semble.
Mais en tout cas, contre Hoffenheim, il est rentré en cours de match.
Je sais qu'il a fait une bonne rentrée contre Hoffenheim. Après, on est tombé sur un Baumann qui est vraiment qui était chaud.
Qui a fait le match de sa vie.
Je suis pas d'accord parce que Dembélé et Traoré, ils ont eu des contre-attaques qu'ils n'arrivaient pas à mettre au front. Au fond.
Mais pourquoi? Parce que Baumann était.
Et c'est un petit peu grâce
chaud.
À. En partie grâce à eux, j'ai envie de dire que Lyon se fait égaliser.
La frappe de Fekir juste avant qu'il sorte. Et que Baumann, il te l'arrête. Mais, et même là, sur la reprise de volée de Fekir, où il fait un arrêt en se tournant, là, je sais pas comment, là, tu te dis, bah, ok, il n'y a pas que ça. Mais ouais, Baumann a vraiment été vraiment, vraiment chaud sur ce match.
Et j'en parlais avec Antoine. Il y a un autre problème à Lyon, c'est quand ils perdent la balle, il y a des trous énormes. Quand Hoffenheim récupérait la balle, surtout sur le premier but, on l'a bien vu,
après,
Kramaric fait tout le terrain. Alors,
surtout en deuxième mi-temps. Quoi.
Il est quand même particulier parce qu'il y a la faute sur Ndombele. Tout le monde s'arrête parce que tout le monde pense que l'arbitre va siffler.
Non, Antoine, je ne vais pas prendre l'exemple de ça alors, mais en règle générale, quand les équipes, même Bordeaux, on l'a vu, prennent le ballon, mais il y a des espaces mais monstrueux. Ils font ce qu'ils veulent. Elles font ce qu'ils veulent, les équipes en face. Elles peuvent construire tranquillement leur jeu. Les attaquants s'en foutent. Ça lève les bras.
De toute façon. Mais il y a une image très criante du comportement de Memphis Depay sur le match contre Guingamp. C'est quand il veut donner la balle à Kenny Tété qui déborde pas et qu'il a vraiment un mouvement de genre bougez-vous, quoi, aidez-moi. On voit vraiment qu'il gueule sur TNT.
Ouais, c'est lui qui fait ça, mais c'est marrant. Parce que lui,
mais non,
c'est
mais justement,
peut-être le pire,
ça prouve que peut-être il a pris conscience de certaines choses.
Ouais.
Et que peut-être qu'il essaie de l'inculquer à l'équipe. Parce que pour moi, même si Topay, après, avec Fekir, ça va être le leader de l'équipe. Le leader technique et le leader.
Techniquement, c'est clairement le leader de l'équipe. Après, c'est vrai que tout ce qui est niveau extra-sportif, Memphis, il a quand même quelques casseroles qui sont méritées. Ça, personne ne peut le nier. Mais au niveau technique, il est au-dessus du lot.
Ouais,
il est au-dessus du lot.
Tu parles de qui?
Mais je te parle pas.
Memphis.
Je te parle pas que d'Alion. Hein. Je te parle même en Ligue 1. Memphis, cite-moi 3 joueurs en Ligue 1 qui sont meilleurs techniquement que Memphis.
Moi, je te dis sans problème.
Non, mais il y en a, d'accord. Tu vas me citer l'effet. Effectif du PSG, ok.
Ah, petite anecdote.
Non, Fekir.
Quand Bouffon a été invité sur le canal Football Club, on lui a demandé quel joueur vous a le plus impressionné en Ligue 1. Il a sorti Memphis Depay. Quand même.
Il connaît pas encore bien la Ligue 1.
Non, mais il connaît pas la Ligue 1, mais je pense qu'il connaît à peu près bien le foot.
Quand un joueur comme Bouffon te sort ça, tu sais, il est quand même légitime, le mec. Tu vois ce que je veux dire?
Non, c'est pas
Paul Lannes qui a sorti ça, par exemple.
Non, mais Bouffon, je me rappelle qu'au début de saison,
il
disait qu'il était
vraiment pas Paul Lannes.
Paul Lannes, à la base, le sang.
Ah, Antoine, Mmh. En début de saison, dans un interview, il y a Buffon quand même qui avait dit qu'il était impressionné aussi par Marcus Thuram. Hein. Donc on va se calmer.
Et au final, Marcus Thuram met un doublé ce week-end contre l'Olympique Lyonnais.
Dont un penalty qui est quand même très 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 sévère. Hein. Parce que le penalty pour Guingamp, je m'excuse, mais bon. Morel, il fait pas la main. Et c'est flagrant que c'est involontaire. Il la met en se tournant. Bon, bref, c'est fait, il n'y a pas eu de conséquences. On le trouve aussi la très bonne rentrée de Maxwell. Qui met un but sur son deuxième ballon touché. Ça peut être une alternative en vrai à Traoré. Hein.
Sauf qu'il part au mercato hivernal.
Bah, on sait pas après.
Normalement.
Mais ce qu'il faut à Lyon cet hiver, c'est clairement un numéro 6. Donc peut-être Samaris et un défenseur central.
Samaris, c'est un pur 6.
C'est un 6.
C'est un 6, ouais.
Qui joue plus au Benfica.
Ouais. Il joue plus au Benfica, donc à voir.
Et c'est vrai qu'on en parlait avec Antoine et Samaris, j'ai toujours eu de bonnes échos et on a regardé un peu ses stats.
Il a fait deux très bonnes saisons en arrivant à Benfica. Et puis les deux d'après, il a quand même un peu moins joué. Mais ça reste un joueur d'expérience.
Voilà. Après, je t'avoue que ça n'a pas l'air d'être un crack, mais vu la conjoncture actuelle à Lyon, je pense que ça m'arrive, je prends avec plaisir. Surtout qu'il arrive gratuitement, non ?
Ouais, il arrive. Non, je suis pas sûr.
Il est en fin de contrat cet été. Ah, d'accord. Ouais.
Mais
il va Benfica, arriver au rabais dans tous les
Benfica
cas.
Benfica voulait le vendre. Avoisiner les 10 millions. Non
Benfica voulait le vendre 20 millions au début d'année, sauf que comme il arrive en fin de contrat et qu'il a quasiment pas joué avec Benfica, son prix va forcément baisser. Donc je pense qu'on peut l'avoir autour de 5-10 millions.
Oui, il arrivera au rabais. S'il arrive en fin de contrat à la fin de l'année, là, c'est sûr.
Et puis, il faut un défenseur central aussi. Dès cette hiver, je pense. On peut aller chercher. J'ai vu qu'on était sur Niagnon.
Morel, il part à la Cannes. Là,
Morel part sûrement. Ouais,
à Madagascar, son équipe de cœur.
C'est la phrase qui fait tâche. Hein. C'est la patrie de son cœur.
Il l'a appris le matin même. Hein.
Et du coup, ouais, si on va aller chercher Niagnon, ça peut être un bon coup, en vrai. Parce que Niagnon, à Rennes, il était vraiment il était bon. Hein.
Très, très chaud.
Et puis, ça fera un énième international espoir français. À Lyon, donc je prends. Voilà. Donc, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Lyon. On va peut-être un petit peu vite fait évoquer ce qui s'est passé ailleurs sur la planète foot. On a le choix entre parler de Bayern Dortmund ou du Super Classico. Donc,
commençons par l'Allemagne, non ?
Moi, j'ai regardé en entier le Super Classico. Donc, si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, que du bien.
Ah mais moi ah, mais vraiment...
ça fait plaisir ouais.
Alors vraiment j'ai redécouvert le foot. Oui, moi aussi. Honnêtement, je vais pas faire l'expert, j'ai dû peut-être voir 3 matchs de Copa Libertadores dans ma vie et là c'était le premier Super Classico que je voyais. Alors certes niveau technique, c'est pas la folie comme quoi pas... non, c'est pas la folie malgré ce que j'ai dit, il y a certains joueurs qui n'ont rien à envier aux joueurs qu'on peut voir tous les week-ends. Je pense notamment à Pavon qui est sorti
malheureusement. Palacios.
Enzo Pérez, t'as même Ezequiel Palacios. Lucas
Prato aussi. Hein, Lucas
Prato.
Lumar Barrios aussi.
Enfin, tout ça pour dire que voilà, techniquement, c'est clairement pas le point fort des deux équipes, même s'il y a de la qualité, mais au niveau du scénario, de l'engagement... Et l'ambiance, j'en parle même pas. C'était pas le même sport.
Pendant le match hier, j'en parlais avec Antoine. Mais quel plaisir, mais quel pied.
Hier,
même avant le match, même pendant. Mais c'est vrai que techniquement, certes, il y a mieux. Même si River Plate, c'est pas mal.
Non, mais River Plate, c'est une équipe joueuse, donc c'était vraiment pas mal.
Hier, je zappais entre.
Contre, on est d'accord pour passer de la Bombonera à Louis II, tu dois te mouiller la nuque.
Ouais, hein. C'est ce que je zappais entre Monaco et la Bombonera. Ça, tu fais un claquage de l'ambiance, tellement c'est
la différent. La tristesse.
Mais j'avais jamais vu ça. Genre, des supporters qui chantent, même pendant la mi-temps. Tu sais, quand tu vois ça, à la mi-temps, tu vas pisser, tu vas acheter à boire et tout. Oh, eux, ils continuent à chanter. Ils bougent pas leur siège pendant.
Après, c'est les ambiances sud-américaines.
Non, mais
ils sont comme ça.
Mais là, c'est surtout la plus grosse rivalité du monde.
Ils ont 3 heures de temps là-bas.
Nous, avec nos petits derbys Lyon-Saint-Etienne, on fait vraiment pas le figure à côté.
Non, mais surtout, j'ai vu sur des articles et tout, et c'est un truc de fou. En fait, ça dépasse le foot là-bas. Il y a l'équipe qui sortait un truc, c'est que les hôpitaux à Buenos Aires, ils recevaient beaucoup de patients qui souffraient d'insomnie, malaise cardiaque, de
mais tu sais que des anecdotes comme ça, ça fait c'est un peu folklorique le football sud-américain, c'est ça que j'aime bien, t'as des anecdotes comme ça à l'appel. Une fois, il y a un super classico qui a été commenté par un cardiologue. Et à chaque fois qu'il y avait but, il donnait des conseils pour pas faire d'arrêt cardiaque en célébrant les buts.
Incroyable.
Et il faut savoir aussi que la dernière fois que les deux clubs s'étaient affrontés en Libertadores, c'était en quart de finale. Le match aller-retour avait duré 45 minutes en tout. Parce que ça avait été trop le bordel et River Plate avait gagné sur tapis vert.
Mais il y a des morts, des fois.
C'est vraiment, ça dépasse vraiment le.
Mais à l'ouverture du score là, du match d'hier, il y avait des gens qui pleuraient. Ouais, tellement ils étaient contents.
Et qu'est-ce
c'est
que
une
je
religion
dire
là-bas. Hein.
Pour parler plus foot, sportivement maintenant, pour ce match, River Plate, techniquement, c'est mieux.
Et je suis pas d'accord.
Pavone, par contre, Pavone que j'aime beaucoup.
Pavone qui a fait la Coupe du Monde avec l'équipe d'Argentine d'ailleurs.
Quand il est sorti blessé. J'ai l'impression que ça a libéré le jeu de Boca. Benedetto, je l'ai redécouvert.
C'est gros respect à Dario Benedetto qui est rentré à la place de Christian Pavone.
Et qui marque direct.
Et qui marque, on aurait pu penser que ça.
Mais d'ailleurs, ça Benedetto, c'est vrai, c'est pas tant une surprise que ça parce qu'il marque un doublé en demi-finale qu'il les envoie en finale justement. Donc c'est un acteur important de l'équipe.
Non, mais même, c'est un habitué à la sélection argentine. C'est pas.
Mais
c'est
tu vois, Pavone, on a pu penser que le mec, voilà, il remplace Pavone. Il rentre en finale, c'est particulier.
Et il n'est pas ailier gauche. Il n'est pas,
il a pas du tout été inhibé par le truc, quoi.
Ouais,
il est rentré, il a fait son taf et terminé.
Mais c'est juste, honnêtement, c'est le fait que ça soit en finale de Copa Libertadores, c'est tellement amplifié.
C'est la première fois de l'histoire.
C'est la première fois de l'histoire, d'ailleurs. Mmh. Et c'est tellement amplifié. Et c'est comme si on avait un Real Barça en finale de Ligue des Champions. En fait, c'est la comparaison qui est
revenue. Même si ça ne suffit pas le championnat argentin ou la Copa Libertadores, tu étais obligé de regarder ce match hier. Parce que c'est tellement un match historique.
Honnêtement, c'est ce que j'allais dire. Moi, en fait, je ne m'attendais pas à un match de fou.
Moi,
même si c'était une purge, j'étais juste content de le voir pour le côté historique, en fait.
Moi, les gars,
et pour l'ambiance aussi. Hein.
Et pour l'ambiance, c'est sûr.
J'ai pas eu l'impression d'aller voir un match, en fait. J'ai un film, on dirait.
Ouais,
un
spectacle. Vraiment...
Et à la fin, déçu que ça soit terminé. Rendez-vous
surtout,
dans deux semaines.
Surtout pour le coup que le scénario a vraiment été au rendez-vous. Ça
pour le
été
coup,
un
ouais, le scénario, c'était.
Ça a pas été un vieux 0-0.
Avec Benedetto qui
mais ça sera compliqué
match,
pour le retour pour Boca.
Ah oui, El Monumentale, ça va être.
Et Armani qui fait.
Par contre, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'en Libertadores, en tout cas, en finale. Mais il me semble que c'est sur toute la compétition. Les buts à l'extérieur ne comptent pas.
Ah ouais ?
Ça, c'est tant mieux.
Ouais, oui, ouais, c'est pas comme les buts champions.
Et du coup, comment on gagne alors ?
C'est l'équipe qui met le plus de buts à l'issue des deux rencontres.
C'est
tout
ça.
Simplement.
D'accord.
Bon, je trouve que c'est bien.
Bah, je propose qu'on s'arrête là pour la page foot, parce qu'on va pas avoir le temps d'évoquer les autres matchs.
Même pas le derby United.
Ce que je propose, c'est que la semaine prochaine, on fasse un petit topo sur ce qui se passe en ce moment.
Petit topo sur le derby United. United City, domination.
Voilà. Purge. Pour qui ? Pour City. Ouais. Manchester is blue again.
Bernardo Silva,
3-1,
merci.
3-1,
ouais, mais après, là, pour évoquer rapidement Manchester, c'est que Martial a été encore une fois bon.
Pogba,
après,
il a pas été transcendant.
Il a pas été transcendant, mais il était bon.
Sanchez qui a joué un moment là, il a rien fait.
Il est rentré à la fin.
Pogba,
c'est tellement triste de voir Alexis Sanchez comme ça, alors qu'il y a pas si longtemps c'était le meilleur joueur de Première Ligue et un des meilleurs joueurs du monde. Au final, là, je vois des rumeurs qu'il l'annonce au PSG et franchement, ça me fait ni chaud ni froid de le voir débarquer en Ligue 1.
Bah, il
c'est triste à dire.
Hein. Qui voudrait aller au PSG, mais même pas pour être titulaire quoi, actuellement. C'est...
Bah, après, il faut voir.
Quand tu vois Alexis Sanchez.
Après, faudrait voir. Hein. Il y a Di Maria qui joue beaucoup. Certes, Di Maria il fait ses matchs, mais je pense pas qu'il soit intouchable non plus dans l'esprit de Tuchel.
Après,
donc,
Pogba a tellement manqué au milieu de terrain du United. Quand tu vois les performances de Fellaini, surtout d'Herrera qui a été catastrophique.
Ouais, Herrera, c'est une catastrophe.
Le nombre de ballons qu'il a perdu, Herrera,
ça n'a pas été fou non plus.
Qui
Rashford.
Ouais, mais franchement, non, mais... la ligne de 3
c'est
avec
City,
Rashford, Lingard.
Justement, Emric, là, il a dit un truc intéressant. Certes, United, c'est très pauvre, mais attendez, City.
Il y avait
là,
City.
C'était du grand arrière. Encore une fois, Guardiola, tu sens sa patte. Bernardo Silva qui est au sommet de son art.
Emric Laporte, impérial aussi.
Quand tu vois Leroy Sané qui est sur le banc, enfin, le roi Sané, comme vous voulez, qui est sur le banc, qui rentre, qui fait une super rentrée.
Elrey Sané.
Emric Laporte, je sais
même
pas.
Même Gundogan, roi de le but qu'il met.
L'action,
contrôler et faire une frappe tranquille.
L'action du but de Gundogan, c'est un modèle. C'est un but d'école.
Je suis totalement d'accord avec toi.
Je sais pas de quel pays il est, mais en tout cas, si c'était français, j'aimerais qu'il soit sélectionné. Hein, parce
il a un nom bien francophone, le Laporte. Il doit être
belge. S'il serait français, il serait déjà sélectionné.
C'est sûr.
Non, mais c'est vrai que défensivement aussi, par rapport à l'année dernière, où justement les failles de City étaient dans la défense, là, Guardiola, il a trouvé sa paire, Stones. Laporte qui
pour
coup
Stones avait clairement perdu sa place la saison dernière et qu'il l'a retrouvé
au profit au détriment d'Otamendi
c'était pas non plus
mais voilà exactement Otamendi
puis Agüero toujours
Mendy qui est revenu à son
Agüero toujours au top niveau
il est bon Mendy
Agüero qui est monstrueux
Même Walker mais, à côté là.
Mais dans tous les cas, City, on peut s'émerveiller 10 ans sur l'effectif.
Même de toute façon, hein,
c'est une équipe qui est faite pour aller loin en Ligue des Champions. Donc tous les postes sont doublés, voire le triplés, seul... avec des joueurs de très très haut niveau. Et ça fait super plaisir à avoir joué.
Le seul petit point faible que je trouve dans l'équipe de City, c'est quand même Kyle Walker, que je trouve pas si exceptionnel que
ouais,
ça.
Ouais, mais ça tient la route.
Ça reste solide
en équipe de France, personnellement.
ça reste solide.
C'est pas le plus mauvais.
Mais c'est
quand
pas
même.
Non plus. Voilà. Je pense que City peut trouver mieux à ce poste-là. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est pas le même poste, mais j'aime beaucoup le jeune Zinchenko aussi. Qui peut jouer latéral et qui, franchement, joue pas si mal que ça. Il avait été prêté au PSV, il me semble, il y a quelques temps.
Tu parles en latéral droit ?
Il est latéral, après je sais plus s'il est gauche ou droit.
Je sais
qu'il joue latéral des fois et qu'il est vraiment très performant. Donc à voir, ça peut être une solution pour City.
Aussi, niveau latéral, il y a Fabian Delph aussi qui a pas mal dépanné à ce poste-là il y a peu. Bon, vous avez tellement mis votre vie qu'en fait on pourra pas parler du Ballon d'Or, mais c'est pas grave.
Ouais, ni du Bayern Dortmund du coup.
Ni du
coup,
Bayern Dortmund qui a été un gros match.
C'était fantastique.
Du coup, je propose qu'on fasse une petite aparté la semaine prochaine sur le travail de Favre à Dortmund. Okay,
et sur revenir sur le podium annoncé. Provisoire voilà. Annoncé avec du Ballon d'Or.
Voilà. Ça peut changer.
On verra sur ça.
Ça peut changer.
Prochaine.
Le Ballon d'Or.
Ça peut changer. En fait, c'est apparemment les votes auraient été dépouillés à moitié.
Ouais, c'est la moitié là.
Et
qui...
la tendance du coup, ce serait Modric, Varane et Mbappé.
Et Griezmann pas sur le podium.
Donc ce que je propose, c'est que la semaine prochaine, on s'attarde sur le travail de Favre à Dortmund et sur le Ballon d'Or, sur les réactions sur ce podium. Et voilà, tout ce qui est autour, mais on va parler un petit peu de boxe, enfin le sport de combat, parce qu'il y a des grosses actus là.
Avec
le beau jingle.
Le beau jingle qui fait plaisir.
Alors, il y a eu liste, on sait tous, il y a le combat qui va opposer Tyson Fury de Gypsy King à Deontay Wilder.
Le Gypsy King, le roi des gitans.
Voilà.
Rien que ça.
Je suis déjà content, Emery, qu'on les a perdus là déjà. Ouais. Là, non,
je vais à la cafette là.
Ah, vous avez mangé là, ça y est. Donc on va débattre à deux avec Gianni. Qui va gagner et pourquoi ?
Alors, moi, mon pronostic, et je pense que tu le sais déjà, franchement, je vois Deontay Wilder s'imposer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je pense que il a une telle force de frappe que Tyson Fury. Même si on sait que Tyson Fury il a une boxe très technique, une approche vraiment vraiment scientifique quasiment des choses, mais je le vois pas résister à la force de frappe de Deontay Wilder. Et honnêtement, Fury, je suis pas si convaincu de son comeback. Je pense que l'apogée de sa carrière, ça restera son combat contre Klitschko, et je le vois pas inquiéter Wilder outre mesure. Donc voilà, pour moi ce sera Wilder par KO. Quel round,
par
je
KO,
sais pas.
Carrément.
Quel round, bah, on parle de Deontay Wilder, celui qui a 98% de KO en carrière.
Oui, ouais, c'est sûr.
Donc voilà. Donc mon pronostic, c'est Wilder par KO, mais surtout, s'il vous plaît, après ce combat, si Wilder gagne, donnez-nous Deontay Wilder contre Anthony Joshua.
Après ça,
le combat du siècle.
On devait l'avoir, mais ce qui s'est passé avec l'entourage de Joshua, notamment avec son agent, a fait que ça s'est pas fait. Donc, à voir si l'agent de Joshua, dont j'ai oublié le nom,
Eddie Hearn,
à voir si Eddie Hearn essaie de rédiger un contrat moins unilatéral.
Ouais, en fait, ils se renvoient la balle, les deux camps se renvoient la balle, mais la tendance qui semble se dégager, c'est que apparemment le camp de Joshua aurait été trop gourmand. Et il y avait une trop grande disparité entre les salaires qu'allaient percevoir les deux. Donc...
Après, on sait que Eddie Hearn est très très.
Bah c'est vraiment Eddie Hearn, c'est vraiment un businessman à proprement parler.
Et puis c'est son poulain en premier, et puis le reste après. Ce qui peut paraître normal d'un côté, mais bon, d'autre, il y a quand même Deontay Wilder qui est quand même un champion aussi. Et voilà, chacun doit respecter les intérêts de l'autre pour que ça se fasse. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc à voir si ça évolue. C'est que c'est vrai que ça pourrait être peut-être l'un des plus beaux combats de ces dernières semaines, de ces derniers mois et même de ces dernières années.
Bah, clairement, Wilder contre Fury, après, faut pas chipoter. C'est vrai que c'est une autre affiche qu'on attendait, mais c'est quand même un très très gros combat entre Fury. Bah, c'est un ancien champion du monde poids lourd qui a été rattrapé par des problèmes plus extra-sportifs que.
On rappelle que Fury a fait une grosse dépression,
qu'il a été contrôlé positif
contre la cocaïne, qu'il a avoué avoir plusieurs fois tenté de se suicider, donc il est passé vraiment dans une grosse période noire.
Et surtout au début de l'annonce de son comeback, il était en très très fort surpoids pour un boxeur professionnel. Il a dû perdre je ne sais combien de kilos, mais c'est facilement dans plus d'une vingtaine de kilos, donc c'est une belle histoire. Après, Deontay Wilder, je le vois vraiment très solide. Il y a certains qui disent que c'est juste un gros frappeur, mais il a aussi
technique aussi.
Pour moi, il a aussi de bons fondamentaux, et clairement, je pense qu'il sera légèrement au-dessus de Fury, que ça suffira.
Pour ça, moi, je vais finir en évoquant mon pronostic. Moi, ça va être plus le pronostic du cœur. Tu l'as dit, c'est une très belle histoire avec Tyson Fury, et j'espère sincèrement que Fury va gagner, même si j'y crois pas plus que ça, parce que faut être raisonnable. Wilder, je pense, est actuellement au-dessus niveau technique. Après, voilà, on sait que Fury, il a souvent surpris les gens, surpris les pronostics. À voir sa forme physique, à voir ce qu'il donne. Et puis,
faut noter que Fury a déjà fait un combat qui représentait un peu un combat d'échauffement et qu'il a facilement gagné contre un adversaire qui n'était pas classé. Donc voilà, c'était pas quelque chose de mirobolant, mais il a déjà pu avoir un petit échauffement avant son gros match contre Wilder.
Après, si Tyson Fury gagne, ça m'étonnerait que ce soit par KO.
Je pense
que ce sera plutôt au point.
Ce serait par décision, si Fury gagne.
Mais voilà, en tout cas, j'aimerais bien que Tyson gagne. Je pense que ce serait un point d'orgue assez sympa, son comeback.
Mais après, c'est sûr que Fury, c'est quelqu'un de méritant, car sportivement, comme je l'ai dit, il n'a jamais perdu ses titres. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de...
D'ailleurs, il a bien tapé sur les frères Klitschko récemment.
Non, c'est pas quelque chose d'absurde de le voir à ce niveau-là.
En disant que les frères Klitschko étaient des personnes malhonnêtes. Voilà, donc ça, c'est du Tyson Fury tout craché.
C'est Tyson Fury dans le texte. C'est WWE style.
Emric, Quentin, un petit pronostic peut-être? Ou vraiment, vous êtes pas du tout chaud là-dessus?
Mayweather gagnant.
Ah, Mayweather MVP.
Mayweather MVP.
Ben, en fait, c'est ça que j'allais dire aussi. Donc...
Bah, très belle transition, je pense qu'on va finir toute émission sur Mayweather.
C'est ça, je crois que c'est un fail.
Ouais, un petit peu.
Il y a pas de quiz, il y a pas de quiz après.
Parce que en gros, on va rappeler les faits, Mayweather devait signer un contrat avec
la Rising Fighting Championship, donc qui est une fédération de MMA au Japon. Japonaise effectivement, donc grosse conférence de presse arrivée en grande pompe de Mayweather qui annonce qu'il a choisi de sortir de sa retraite pour un show en fait au Japon.
Tout le monde était en train de...
Ah oui, même nous qui
voilà.
Suivons pas...
Tout le monde disait à Mayweather qui revient.
Il faut savoir que c'était une très grosse échéance, car au Japon, en fait, le show de MMA du 31 décembre, ça a toujours été une tradition qui a été perpétuée par plusieurs fédérations qui se sont suivies dans l'histoire. Et donc là, c'était justement pour le fameux show de la veille du Nouvel An que Mayweather devait effectuer son retour. Et au final...
Retour aux États-Unis et puis Mayweather qui déclare sur son compte Twitter ou Instagram, enfin je sais plus, que ça
Instagram.
Ne sera pas Instagram, que ça ne se fera pas parce que le contrat a été, il y a eu un problème au niveau du contrat, il devait faire quelque chose de privé, je sais pas quoi, ou les gens devaient payer une fortune pour aller voir le match. Il a quand même dit que.
En fait, Mayweather, il a déclaré en gros que à la base on l'a fait signer pour une exhibition, qu'il n'était pas du tout au courant des plans de la fédération japonaise. Alors que c'est quand même curieux en fait, parce qu'il répondait à des questions de journalistes, notamment d'ESPN, qui lui demandaient pourquoi est-ce qu'il avait choisi de sortir sa retraite. Donc c'est quand même qu'il devait être au courant que c'était quelque chose d'officiel. Au final, je pense que c'est des histoires d'argent. Je pense, on connaît Mayweather, on sait qu'il est très attaché à l'aspect financier. Donc je pense que tout simplement, il y a eu un problème à ce niveau-là.
Il a quand même expliqué d'ailleurs, c'était très drôle, qu'il ne connaissait même pas... le mec qu'il allait affronter, qui est un jeune pratiquant d'MMA, dont j'ai plus le nom, mais...
Non, c'est pas un pratiquant d'MMA, en fait, c'est un kickboxer.
Un kickboxer,
c'est
ouais,
un kickboxer invaincu, en fait, invaincu au Japon.
Mais qui est assez jeune, je crois.
Il a 20 ans, a 20 ans, donc c'est vu comme une sorte de petit prodige du kickboxing au Japon.
En tout cas, au final, ça ne se fera pas. Au grand désespoir de tous les fans de Floyd Money Mayweather. Donc t'es en train de chercher le nom du mec là?
Exactement, c'est Tenshi Nasukawa.
Voilà,
qui a 20 ans, qui est un jeune prodige du kickboxing et qui au final pouvait avoir le combat de sa vie et finalement, bah, je pense qu'il va retomber dans l'anonymat très prochainement.
Et bah, désolé Tenshin, mais nous on va finir avec le quiz.
Et juste oui. Avant ça, j'ai deux trois infos.
Ça vient de tomber.
Ça vient de tomber.
Le scoop.
Alors, il y a la confirmation. Normalement, Pogba devrait bien être forfait.
Il est remplacé par Jordan Veretout. Voilà.
Il y a
c'est
le
blague.
Jeune.
Non, je sais
le
pas.
Jeune Matteo Guendouzi.
Guendouzi,
excusez-moi, qui vient d'être sélectionné en espoir.
Ah, ça, c'est
enfin, Matteo Guendouzi.
Guendouzi. Et enfin, est-ce que vous vous souvenez de Samir Nasri?
Ah non, c'est qui?
Ouais. Suspendu 18 mois pour dopage de l'UEFA. Oh. Et bien aujourd'hui, visite médicale à West Ham.
Bon coup pour West Ham.
Pour le coup, tu veux savoir où est-ce qu'a atterri un mec qui a disparu des radars? Regarde l'effectif de West Ham et je pense que t'as de grandes chances de le trouver.
Mais c'est vrai que.
Ils font dans le recyclage en fait.
Alors justement.
Les jambons de l'Ouest.
Tu sais qui va être. Il retrouve Manuel Pellegrini.
Mais Guendouzi, bonne nouvelle pour son équipe de France Espoir.
D'ailleurs, Guendouzi, ça peut être une alternative chez Léa aussi.
Clairement.
Ouais, clairement.
Et aussi,
d'accord.
Si on est au breaking news,
moi,
alors.
Je pensais plutôt à Guendouzi.
Puisqu'on en est au breaking news, un petit point tennis. Vu qu'on va faire une page tennis prochainement, normalement, Richard Gasquet est forfait pour la finale de Coupe Davis.
Aïe.
Coup dur.
On parlera de ça la semaine prochaine. On va finir avec le quiz. Est-ce qu'il y a un jingle de quiz ou pas? Cherche.
On peut le faire manuellement.
Non, on le fait à la bouche, sinon. Hein.
Bien sûr qu'il y a un jingle de quiz, mais encore faudrait-il que je le trouve.
Encore faut-il parler dans le micro aussi.
Encore faut-il parler.
Et
bien
ça
sûr
trouve,
qu'il y a
ça...
un jingle de quiz. Jingle de quiz.
Vas-y,
ou pas
quiz.
Allez, dépêche-toi, pose-moi ta question. Top, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir.
Voilà, parfait.
Tout ça pour ça, j'ai envie de dire.
Et ça se trouve, ça fait une heure que je m'entends plus, vu que j'entends plus personne depuis 30 minutes.
Ah ouais.
Mais bref, c'est pas grave. Donc,
moi, je t'entends.
J'ai fait moi le quiz. Aussi. Alors, première question. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps de Guingamp-Lyon? Donc, je tiens à préciser que pour dire la réponse, il faut que vous donniez votre nom et après vous dites la réponse.
Jenny.
Ouais.
Memphis Depay est descendu des cieux.
Non.
Ah.
Du coup, attends, est-ce que quelqu'un peut prendre les points par contre?
Je compte.
Ok. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps de Guingamp-Lyon?
J'ai pas d'idée là.
Je passe.
Personne là?
Non.
Genesio a poussé une grosse gueulante.
Ah, c'est ça.
Qui a permis aux joueurs lyonnais de se réveiller.
Oh là là,
Pep
Genesio.
Ah, comme c'est rare qu'il gueule, en fait, je pensais que ça pouvait être une question sympa. Quelle ouais. équipe a fait tomber l'Asvel ouais, ce ouais. week-end et sur quel score?
Je vais faire le quiz la semaine prochaine, on est d'accord.
Bon, quelle équipe a fait tomber l'Asvel ce week-end
la pro...
et sur quel score?
Sur quel score? Quelle équipe a fait tomber l'Asvel? C'est Orthez?
Non.
J'en ai aucune idée. En plus, j'ai pas dit mon prénom.
Vous êtes pas très bon en vrai.
Monaco, allez de tête.
c'est une équipe d'Alsace.
Strasbourg.
Ouais.
Je l'ai dit en premier.
Sur quel score?
78 à 82.
Non, du tout.
Non, j'ai pas le score.
32-28.
Allez, oula, 32-28. 32-28 au basket.
Donc, c'est bien Strasbourg sur le score de 97-92. Et je vais accorder le point à Gianni vu qu'il a dit en premier Strasbourg.
Ah,
Le SIG de Strasbourg.
On voit la corruption.
Non, parce que voilà, comme vous êtes pas très bon.
Ouais.
En merci. Même temps, tu poses des questions de Pro A et de D2 congolaises. Donc bon.
À quelle minute? À la question rugby maintenant. Attention. Ah. À quelle minute le 15 de France a-t-il encaissé l'essai qui lui a fait perdre le match contre l'Afrique du Sud?
À la 80e minute.
Bien joué. 2 points pour Gianni.
Bon, Gianni, on va te laisser.
Ensuite, question 4. Quel sportif a avoué avoir été banni de Wikipédia pour des raisons pédagogiques?
Tyson Fury.
Bien joué. 1 point pour Quentin, qu'il a lu dans mes fiches, hein, je suppose.
C'est tout à
donc
fait.
Donc ça fait 2 pour Gianni, 1 pour Quentin.
Ah,
zéro
parce que Quentin,
moi.
On lui accorde le point, même si c'est avéré qu'il a triché en fait.
Il l'a dit.
Comme
il
n'y
a aucune preuve.
C'est pas grave. C'est pas grave.
Ah, là, tu vas pas te rattraper, Gianni. Qui a gagné la Coupe du Monde à Crown Jewel?
Shane McMahon.
Voilà, 3 points pour Gianni. Il va y avoir Lewis normalement. Donc y a pas de
c'est une question WWE.
Il n'y a pas de contender ici. Oui, c'est une question catch.
Catch attack.
Écoutez, c'est bien.
Donc 3 points pour Gianni, 1 pour Quentin, 0 pour Greg toujours.
Ah, mais il est bien squeeze en fait. Hein.
quand
dans quelle franchise Jimmy Butler a-t-il été trade?
Philadelphie Sixers.
Ah ouais, il est bien ce quiz, il est bien.
Philadelphie Sixers.
Bon, bah 4 pour Jenny. Hein. Oh,
très,
vous vous réveillez un peu
très
là.
Très bien ce quiz.
En combien de temps Alassane Pléa a-t-il marqué son triplé
13
ce
minutes. Emery, oh, 13 minutes.
Un point pour Emery.
Ah, t'inquiète,
ça
là,
fait 4-1.
Il faut que les amis comptent.
En combien, et dernière question, question à 1 million de points. La
allez,
question en or.
Route du Rhum, s'il te plaît.
Il va
qui
nous sortir.
Route du Rhum.
Qui a gagné la route du Rhum?
Qui a gagné la route du Rhum, ah, c'est ça? Merde, c'est.
Arbel Lecléage.
Non. C'est. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Nicolas, son prénom, comme ça.
Uh-huh. Nicolas de Taverneau.
Mais je peux te dire à quand enfin
non, c'est, je peux pas. C'est, on te demande qui a gagné
la réponse.
7 jours.
J'ai réponse, non mais attends, je tiens à préciser qu'il y a des gens qui sont sur leur smartphone. Hein. Donc
c'est
à
voir. C'est Ante Toyont comme ça.
Bah, on l'accorde ou pas du coup.
Ante Tokounmpo.
Personne d'autre là?
Non.
Non, moi j'en ai aucune idée.
7 jours 14 heures et 31 minutes.
Bon ben bah, on va l'accorder à Emric. Qui du coup a 1 million 1 point.
Je crois bien que je suis le dernier.
Et c'est le vainqueur est Francis Joyon.
Voilà,
absolument
Joyon.
Pas
alors,
Joyon.
Ça n'avait rien à voir.
J'ai dit Toyon.
Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a dit. Hein. Si je peux me permettre, ça n'a absolument aucun rapport. Hein.
Il a dit quand même
le Nicolas,
la stat.
Juste. Ouais, la stat. Le Nicolas, on le trouve où c'est...
Bah, je sais pas, mais c'est Francis.
Je sais pas pourquoi.
Voilà, donc 1 million 1 le point de points pour Emric.
La remontada, les gars!
Et un point pour Quentin qui a sauvé l'honneur quand même. Grâce à mes fiches.
On sait qui est le vrai vainqueur dans le cœur de nos auditeurs.
On le sait.
De nos nombreux auditeurs d'ailleurs.
Qu'on remercie tout particulièrement parce que c'est la fin de l'émission. On finit avec le générique de Dallas. À la semaine prochaine.
Ciao.
Au revoir.
Pourquoi le générique de Dallas?
Parce que c'est la fin. Le générique de fin.
Non.
Si, tu mets ça en fait.
Non.
Bah, ce sera pas Dallas du coup.